Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast 100% football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et aujourd'hui c'est une émission 5 étoiles puisqu'on ira dans les 5 grands championnats pour traiter de l'actualité. On commencera d'abord avec Elton Mokolo sur la Ligue 1, la pique de Luis Enrique envers Kylian Mbappé mais surtout la défaite de l'OM. Est-ce que c'est l'heure de s'inquiéter pour les Phocéens? On lui posera la question. On ira ensuite en Angleterre débriefer le choc plein de buts entre Chelsea et Manchester City avec cette question là encore en filigrane. Est-ce que les Blues tiennent le bon bout? Philippe Auclair nous répondra à tout ça. On ira ensuite en Italie parler de Rudy Garcia qui va être licencié dans les heures qui viennent du Napoli. Guillaume Maier-Pacini reviendra sur les raisons de cet échec et sur l'image un petit peu ternie de l'ancien coach de l'OM et de l'OL. On passera aussi par l'Allemagne pour parler du tube de la Bundesliga. Xavi Simons encore décisif dimanche et qui continue de grandir à Leipzig. Est-ce que Paris doit regretter ce choix? On verra tout ça avec David Lortolari avant de terminer par parler d'Antoine Griezmann et de Xavi avec Anna Caro. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver l'émission. Vous aurez aussi en bonus le vendredi le FC Stream Team. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs extraits. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec notre Ligue 1 Elton Mokolo qui a suivi tout ce week-end français. Encore émaillé de très peu de buts, Elton, et pourtant, un homme en a marqué 3, c'est Kylian Mbappé. Salut Elton, on va commencer par parler de lui avec cette question, et notamment cet éclat de Luis Enrique après le triplé de Mbappé face à Reims. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Sur les buts, je n'ai rien à dire, mais je pense qu'il peut plus aider l'équipe d'une manière différente. Ma première question est franche. Tu en penses quoi, Elton?
Bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors, par rapport à ce que dit Luis Enrique, ce que j'en pense, c'est que je pense que ça englobe pas seulement le match face à Reims, mais ça englobe aussi la semaine en Ligue des Champions avec la défaite contre l'AC Milan, et que la critique est beaucoup plus recevable après une victoire, après un triplé, en l'occurrence celui de Kylian Mbappé, plutôt qu'après une défaite. On sait que les sentiments, les nerfs sont à vif, et donc il peut y avoir des paroles qui peuvent porter à conséquence. Ouais. À partir du moment où tu as gagné 3-0, à partir du moment où tu as eu la prise de pouvoir en Ligue 1, ce qui est une première cette saison, c'est un message qui sera beaucoup plus audible, et c'est aussi une manière de garder Kylian Mbappé sous pression, parce que en fait, je ne sais pas s'ils se sont concertés, mais il y a une cohérence par rapport à ce qu'avait dit Kylian Mbappé au micro de Prime Video, en parlant de l'importance de marquer et de bien jouer. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc oui, c'est pour ça que pour moi, c'est totalement en adéquation avec Luis Enrique que l'on connaît depuis l'époque du FC Barcelone, où il avait ce même discours, aussi bien aussi en sélection espagnole.
Alors, ce que soulève Luis Enrique, c'est que tout ne peut pas se résumer via les buts de Kylian Mbappé, et Dieu sait qu'ils sont nombreux cette saison, et d'ailleurs Paris n'en serait pas là sans eux. Toi, de ton point de vue d'expert, qu'est-ce qui peut faire en plus dans l'animation parisienne Kylian Mbappé?
Alors déjà, avant de commencer, il faut préciser que le but, pour moi, est le meilleur entraîneur au monde. Ouais. Et donc, Kylian Mbappé l'incarne totalement. Et donc, c'est vrai que sur la feuille de route du PSG, qui est en train de se reconstruire avec Luis Enrique, c'est vraiment très important. Mais maintenant, pour Kylian Mbappé, sa performance ne doit pas se réduire seulement au but. Je veux dire, par là, on peut avoir un Kylian Mbappé beaucoup plus connecté au collectif, un Kylian Mbappé qui produise beaucoup plus en quantité et en qualité. Un Kylian Mbappé qui soit beaucoup plus intéressant sans ballon, parce que je pense que c'est l'une de ses marges de progression.
C'est un axe de progression pour lui, selon toi?
Exactement, parce qu'on a vu qu'avec le rapport de force imposé par le Stade de Reims, il y avait peut-être aussi besoin d'avoir des courses. Si tu veux, Cyril, ça m'a fait penser à un épisode qu'on avait eu lors de la Coupe du Monde 2018, où Didier Deschamps avait pris à partie, entre guillemets,
Oui.
Kylian Mbappé, notamment sur cette importance de faire plus de courses. Et moi, j'ai pensé à ça après la sortie de Luis Enrique, en me disant un Kylian Mbappé serait peut-être beaucoup plus intéressant dans cette idée de faire office de joueur d'intimidation dans le dos de la défense adverse,
Ouais.
ce qu'il a fait en seconde période. Et les faits sont têtus, il marque comme ça sur le deuxième but, de la même manière sur le troisième but. Donc dès lors qu'on a un Kylian Mbappé qui est beaucoup plus létal, qui va beaucoup plus attaquer le dos de la défense adverse, et ben forcément les joueurs, les défenseurs et moi en l'occurrence, on réfléchira deux fois entre guillemets avant de presser, parce que c'est une menace qui est très intéressante, qui est très importante dans le dos de la défense adverse.
Tu l'aimes pas trop quand il redescend justement et qui se met un petit peu dans les zones, dans les interstices, quand il essaye de faire le jeu, pour toi, c'est pas là qu'on doit voir Kylian Mbappé, ou en tout cas, c'est pas sa version la plus intéressante.
Aujourd'hui, le football, c'est quelque chose de global. Alors, quand Kylian Mbappé redescend, ça doit être compensé. Mais si c'est pas compensé, ça veut dire qu'il y a un problème.
Ouais.
Donc, ça invite au pressing, ça invite à la pression adverse. Et donc, on voit bien qu'un Kylian Mbappé, dès lors, son rôle est moins pertinent. Si encore il arrivait à générer quelque chose dès lors qu'il redescendait, qu'il y avait une certaine continuité, je
Ouais.
dirais à la limite, pas de souci. Mais dès lors que Kylian Mbappé n'est pas touché et qu'en plus il arrive dans une zone qui est quand même bien peuplé, où il y a
Ouais,
beaucoup de
beaucoup de
densité,
densité,
et
ouais.
ben forcément c'est pas quelque chose de très pertinent pour Kylian Mbappé et surtout pour le PSG. Donc encore une fois, il faut bien utiliser Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé doit être beaucoup plus connecté au collectif et offrir beaucoup plus de variété, parce que dès lors qu'on aura un PSG prévisible, et ben ça va être un PSG qui sera beaucoup plus fragile.
Ouais. Tu m'offres une belle transition, Elton, puisqu'on va parler d'une autre équipe fragile, une équipe qui a concédé la défaite ce dimanche à Bollaert. Alors, ça arrivera à d'autres équipes cette saison, on va rassurer les supporters marseillais. Il n'empêche que la défaite de l'OM fait mal aujourd'hui parce que Marseille continue sur sa lancée assez médiocre, seulement 2 points pris à l'extérieur cette saison. C'est assez alarmant, mais surtout au classement. L'OM est 10e, à 7 points de la 4e place et de Lille. Alors, certes, il y a un match en moins, mais. Est-ce que c'est l'heure de s'inquiéter pour cet OM?
L'Olympique de Marseille a 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, dernier de Ligue 1. On
Ouais,
peut aussi le voir comme
c'est
ça.
vrai, c'est vrai.
Et même sur la période récente, l'Olympique de Marseille a pris 6 points, soit autant que l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment, la sonnette d'alarme est tirée parce que c'est pas en adéquation avec l'objectif initial, le podium de Ligue 1. On aura beau se dire, oui, ok, les points à rattraper ne sont pas insurmontables, et les faits sont têtus. Tu es sur une dynamique qui est vraiment pas bonne, tu es sur une incapacité chronique à marquer. Je veux dire par là, le dernier but marseillais remonte au 8 octobre et Ismaïla Sarr à 84e minute contre le Havre. Donc moi, je veux bien que on ait cette méthode couée qui consiste à dire qu'à un moment donné, ça va venir du côté de l'Olympique de Marseille, sauf que la concurrence aussi travaille.
Ouais.
Parce que Lens, au mois d'août, était relégable. Aujourd'hui, Lens est aux portes du top 5. Donc pour revenir à l'Olympique de Marseille, c'est dans la continuité de ce qu'on voit, une équipe qui est fragile, une équipe qui ne manque pas de volonté. Au bout d'un moment, c'est surtout un problème footballistique. T'as une incapacité à créer des occasions qui devient alarmante.
Ouais.
On est sur la pire attaque olympienne à ce stade de la saison depuis la saison 2016-2017. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on avait forcément prévu quand on nous a présenté l'escouade offensive l'été dernier avec un mercato qui était censé être qualitatif, c'était censé être un pas en avant. Il n'en est rien au mois de novembre.
Alors, comment tu expliques cette stérilité offensive de Marseille? Effectivement, 12 buts seulement cette saison en Ligue 1. Ismaïla Sarr, qui hier a fait un match très compliqué, qui est le meilleur buteur en Ligue 1 avec 3 buts. Vitinha, 2 petits buts. Et puis, Aubameyang, Ndiaye, qui n'ont marqué qu'une fois. Je parle même pas de Correa et de Harit qui n'ont pas encore ouvert leur compteur. Pourquoi l'OM galère autant à marquer, en fait, tout simplement, et à se créer des occasions même?
Déjà, comme l'a relevé Gennaro Gattuso, il y a un déficit technique qui est quand même très compliqué, parce que on sait que Lens est davantage offensivement qu'ils ont pêché sur ce début de saison.
Ouais.
Par contre, il faut se réveiller pour aller faire mal à Medina, faire mal à Danso, faire mal à Grady qui a encore fait un
Ouais.
grand match. Et quand tu as un déficit technique, que tu as un déficit de créativité, et qu'à côté de ça, tu as une impatience, parce que moi j'ai trouvé l'OM par moments très vertical et même peut-être même trop vertical au moment
OK.
d'attaquer la défense lensoise. Ça manque de méthodologie, ça manque de patience pour justement contourner le bloc adverse. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent, parce que, ok, ça gagne 2-0 contre l'AEK Athènes, mais on avait déjà entrevu ces problématiques. Contre Nice, c'était la même chose. Et contre Nice, c'était Dante, Todibo, Ndiaye. Parce que l'Olympique de Marseille joue de malchance, t'affrontes quand même des animations défensives qui sont rodé.
Ouais.
Et ça met en lumière tous tes carences, tous tes déficits structurels.
Tu as parlé de verticalité, ça m'intéresse parce que il y a aussi cette théorie qui se tient finalement, c'est que cet effectif a été construit pour un 4-4-2 très vertical sauce Marcelino. On se retrouve avec un 4-3-3 un peu illisible avec, on le sent, des joueurs qui sont pas connectés entre eux. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu la faute de Pablo Longoria, toute cette histoire?
C'est vrai que là, aujourd'hui, on arrive à une tour de Babel footballistique. Quand tu regardes
Ouais.
l'Olympique de Marseille, version Gennaro Gattuso, est-ce que les joueurs sont des joueurs indiqués pour le style de Gennaro Gattuso, qui se fait être beaucoup plus patient avec une conservation de balle, beaucoup plus abouti que sur Marcelino, où on avait l'idée d'avoir un football davantage vertical? Alors, c'est vrai que la responsabilité de Pablo Longoria est engagée. Moi, dès cet été, il y avait des incohérences par rapport au profil voulu par Marcelino. Est-ce qu'on avait des joueurs qui étaient des joueurs idoines pour un 4-4-2? Je veux dire, Ismaïla Sarr, je ne suis pas persuadé que ce soit un joueur de 4-4-2.
Ouais.
J'étais pas persuadé qu'Illimani Ndiaye soit un joueur de 4-4-2 qui serait davantage dans les couloirs. Donc déjà, le mercato sur le plan offensif posait la question, parce que j'ai vraiment la sensation qu'on a davantage des joueurs d'axe. Il faut aussi des joueurs qui incarnent cette idée d'amplitude, qui soient capables de percuter sur les côtés. Et tu le vois bien, notamment avec l'Olympique de Marseille de Gattuso. T'es quand même en déficit sur les joueurs de côté qui vont pouvoir avoir une menace qui va être très intéressante, parce que au final, t'arrives sur un phénomène d'entonnoir. Et ce phénomène d'entonnoir a servi les intérêts de Nice, a servi les intérêts de Lens, qui s'épanouit dans cette idée de mettre justement cette densité à l'intérieur du jeu et d'être beaucoup plus compact défensivement. Donc l'Olympique de Marseille, évidemment, il y a une carence au niveau de certains profils qui aiderait l'Olympique de Marseille. Et même sur le volet de l'attaquant, il y a, que ce soit Aubameyang, que ce soit Vitinha qui est encore passé à côté hier, il n'y en a pas un qui arrive à tirer son épingle du jeu. L'ancienneté, le statut d'Aubameyang te ferait dire que oui, il possède une courte avance, mais à côté de ça, son rendement en Ligue 1 est insuffisant pour le joueur que doit être Pierre-Emerick Aubameyang.
Tu t'as parlé des joueurs de côté et de cette paire Vitinha-Aubameyang. Est-ce que l'une des solutions, ce serait pas de se dire, bah, on va tenter de mettre Vitinha et Aubameyang qui ressemblent, je ne sais pas s'ils sont complémentaires, mais en tout cas, c'est deux attaquants qui sont capables de prendre la profondeur, de redécrocher. Enfin voilà, c'est des attaquants axiaux qui savent faire d'autres choses que marquer des buts. Est-ce que ça peut ne pas être une solution justement de se dire, bah, mettons ces deux-là ensemble devant, quitte à ne plus faire jouer des Correa, des Ismaïla Sarr qui sont moins en réussite en ce moment?
Aujourd'hui, Cyril Gattuso est engagé dans une course à la centaise,
Ouais.
à savoir avoir le meilleur équilibre collectif. Est-ce que cet équilibre collectif, qui reste quand même fragile, je veux dire, contre l'AEK Athènes, tu gagnes 2-0, mais tu prends quand même une vingtaine de tirs, ce qui est quand même très alarmant. Paul Lopez est ton meilleur joueur. Est-ce que avoir deux attaquants, en sachant que tu as un déficit de créativité, tu as un déficit technique, est-ce que c'est rendre service et à
Ouais.
Aubameyang et à Vitinha? Je veux dire par là, pour moi, la formule à deux attaquants serait vraiment plus pertinente si tu étais une équipe qui pouvait capitaliser sur un volume d'occasions conséquent. Là, à partir du moment où tu n'as pas ça, je pense que aujourd'hui, tu n'es pas assez mature pour avoir les deux attaquants, et que c'est bien plus en amont, et d'ailleurs Gattuso l'a encore dit hier soir, que tu as des problèmes, notamment sur cette capacité, un, à t'installer dans le camp adverse, et deux, à avoir notamment des joueurs qui arrivent lancés dans le dernier tiers de terrain adverse. Et donc, je ne suis pas sûr qu'avoir deux attaquants ensemble, je pense que les forces, si tant est qu'on parle de forces aujourd'hui, elles risquent de s'annuler.
Eh ben merci beaucoup Elton pour ce point très complet sur Kylian Mbappé, mais aussi sur l'OM. On te dit peut-être la semaine prochaine pour la trêve, on verra. Sinon, on se retrouvera avec le retour de la Ligue 1. Et nous, on va continuer notre tour d'Europe pour aller en Angleterre. Nous voici donc en Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant à Londres. How are you, Philippe, today?
Not too bad. Not too bad.
Alors, not too bad, c'était.
Je me remets de mes émotions du
Voilà, c'est ça, c'est
week-end.
ce que j'allais dire. Not too bad, c'est un petit peu la critique qu'on pourrait
Ouf.
adresser au match complètement dingue entre Manchester City et Chelsea. On va y revenir longuement.
Ouais.
On va peut-être parler d'abord d'une vue d'ensemble de cette première ligue. Il n'y a que 3 points d'écart entre Aston Villa, qui est cinquième, et Manchester City, qui est premier. Toutes ces équipes continue de briller. Aston Villa a encore gagné. Liverpool est là. Arsenal est là. Comment on explique ce début de saison qui est aussi resserré, aussi dense en fait?
Alors plusieurs raisons. La première, c'est que Manchester City n'est pas nécessairement aussi bien qu'ils l'ont été dans
Ouais.
le passé. Là, on a encore vu, on va en reparler, mais par exemple, bon, Kevin De Bruyne, on le sait, est absent pour un bout de temps, mais l'absence de John Stones également se fait sentir. Je pense particulièrement, et là, bon, Manchester City qui prend 4 buts, c'est quand même assez incroyable. Alors, il y a ça d'une part, Manchester City qui marque un petit, non pas un temps d'arrêt, mais un certain, peut-être un ralentissement dans son rythme, qui est tombé face aux Wolves, qui est tombé face à Arsenal, une équipe d'Arsenal qui, bon gré mal gré, même si c'est pas encore totalement enthousiasmant,
Avance,
construit, bâti, voilà, avance, se sert du tremplin. Une équipe de Liverpool qui, pour une fois, n'a pas 50 000 blessures dans ses rangs et donc, bon, joue à son niveau. Des Spurs qui, certes, ont perdu, mais dans des conditions un petit peu particulières ce week-end. 2 buts dans le temps additionnel. Il leur manquait beaucoup, beaucoup de joueurs. On va pas dire, non, c'est fini pour Ange Postecoglou et les Spurs. Pas du tout. Donc, Tottenham est là. Et puis, également, cet épatant Aston Villa dont on va reparler, je pense, un peu plus tard dans ce vidéocast, podcast, appelez ça comme vous voudrez. Et qui continue de nous séduire semaine après semaine. Et le résultat, ben voilà, tout simplement, Manchester City étant un ton en dessous, ayant déjà perdu 2 matchs, ayant concédé ce nul, ça resserre bien évidemment les choses par le haut. Parce que c'est un nivellement par le haut, pas par le bas. La qualité du jeu, très honnêtement, est enthousiasmante en ce moment.
Alors, enthousiasmant, c'est aussi un terme qu'on pourrait utiliser
Ouais.
pour parler du choc de la 12e journée, ce Chelsea-Manchester City achevé sur le score dingue, on va le dire, de 4 partout. Il y a eu un peu de tout dans ce match. Est-ce que déjà pour toi, c'est le match de l'année pour l'instant en Première Ligue?
Je dirais que bon, pas nécessairement au point de vue de l'enjeu, mais au point de vue du spectacle offert, c'est certainement le plus excitant, le plus passionnant, avec quelques buts de grande qualité, des mouvements offensifs de très très grande qualité également de part et d'autre, d'ailleurs que ce soit Chelsea ou Manchester City. Mais je crois que oui, ça va être le match référence au niveau entertainment, si on dit ça comme ça. Et c'est le genre de match sur lesquels la Première Ligue a bâti sa réputation. C'est comme les Liverpool Newcastle d'autrefois, les Arsenal Manchester United d'autrefois, des matchs un petit peu dingues, même complètement dingues dans ce cas-là, et avec des équipes qui n'ont qu'une seule volonté, c'est d'aller au but, de marquer, de faire mal. Donc des équipes, ce qui est d'ailleurs une autre, je dirais une autre des caractéristiques des 5 équipes qu'on a citées, ce sont toutes des équipes extrêmement proactives. Les équipes, la seule équipe de contre entre guillemets que l'on voit dans le top 10, qui c'est Manchester United, j'allais dire, qui fait vraiment. Tu vois, quand tu les compares à ce que font les autres du top 10, tu te dis c'est un petit peu the odd one out, c'est-à-dire c'est la pièce de puzzle qui
Qui
n'entre
colle
pas tout
pas.
à fait dans le puzzle parce que bon, Brighton également joue un football extrêmement proactif, extrêmement agressif, on va dire. Et là, on a vu en effet 2 équipes qui étaient au top de leur agressivité, qui n'étaient pas parfaites. Et ça aide toujours dans un match quand tu as 2 équipes qui ont encore des petits défauts dans leur cuirasse et en face, une équipe qui sait les exploiter, qui les avait identifiés au départ, même avant le match. Je peux faire confiance à Poch et à Pep. Ça pourrait presque comme un dessin animé, ça. Poch and Pep. Tu peux leur faire confiance pour avoir identifié ces petites faiblesses auparavant. Et mon Dieu, ils ont su les exploiter avec brio et avec quelques performances individuelles exceptionnelles.
Alors, on va revenir sur Chelsea dans quelques instants parce que ça nous intéresse. On tourne autour du sujet depuis plusieurs semaines avec toi, Philippe. J'aimerais juste qu'on touche un petit mot de Manchester City. Tu l'as signalé, 4 buts encaissés, c'est jamais anodin pour une équipe de Pep Guardiola. Comment on explique ça? Est-ce que c'est Pochettino qui avait parfaitement préparé son match ou est-ce que ça s'allie au fait que bah, en ce moment, City est moins souverain? C'est un peu des deux, j'imagine.
Un petit peu des deux, mais Poch, le plan de jeu qu'il avait mis en place était quasiment parfait. Il a été exécuté également presque parfaitement par ses joueurs, ce qui montre combien au passage ses joueurs adhèrent. C'est la fameuse adhésion au projet dont on parle si souvent, alors que les choses n'ont pas toujours souri à Chelsea depuis le début de la saison. On aurait pu imaginer des grommellements dans le vestiaire avec tous ces joueurs qui sont arrivés, mais non, visiblement, c'est en train de prendre. On va en reparler. Et du côté de City, bon, il y a peut-être une petite erreur d'Ederson, on va dire, qui relâche ou plutôt le ballon que Nicolas Jackson est là pour pousser au fond des filets. Il y a une petite perte de concentration à la défense centrale. Ederson repousse le ballon dans la zone rouge. OK, Mais enfin bon, c'est pas rédhibitoire. Je dirais qu'il y a aussi l'absence de John Stones, qui est un joueur dont Pep Guardiola d'ailleurs avait parlé il y a une semaine.
Ok.
Et il avait dit, je pense que les gens sous-estiment l'importance de John Stones dans ce que fait Manchester City. Parce que bien évidemment, on sait qu'il joue dans ce nouveau rôle, qui est un rôle de faux latéral, ou voire de faux défenseur central qui vient se replacer dans l'axe. Bon, un rôle éminemment guardiolien et qu'on voit d'ailleurs maintenant
Un peu partout,
copié
ouais.
un petit peu
Ouais.
partout en Angleterre et en Europe. Mais John Stones, il a ce rôle, il se sent complètement à l'aise dedans. Et là, tu regardes la composition du milieu de terrain de Manchester City. Et moi, quand j'avais vu ça au coup d'envoi, je me suis dit, bon, il n'y a que Rodri qui est là pour faire le boulot. Je veux dire, c'est pas Akanji, Gvardiol, Ruben Dias, c'est pas eux qui vont faire le travail que John Stones faisait. Ce qui veut dire que le milieu de terrain, ils auront peut-être quelques problèmes. Ils vont peut-être laisser des espaces. On sait que Bernardo Silva est capable de faire ce genre de choses
Ouais.
également, mais le pauvre vieux, il court déjà
Ouais.
14 km par match. Tu vas pas lui demander de faire 28, quoi. Donc, c'est un petit peu tout ça. Les absences qui se font peser, mais d'un autre côté, une équipe de Chelsea qui était parfaitement équipée pour exploiter les petites failles ou les zones de plus grande fragilité, on va dire, de Manchester City, qui ont déjà été exploitées par d'autres cette saison, au passage, hein, Manchester City, même dans les matchs qu'ils ont remportés, ils ont parfois eu
Ouais,
des
des
petits
petites
problèmes
lueurs, ouais,
défensifs, hein.
tout à fait.
Oui.
Alors, on va passer au blues, du coup, mon cher
Ouais.
Philippe, avec une dynamique qui, voilà, comptablement ne dit peut-être pas tout, mais il n'empêche, sur les 6 derniers matchs de Première Ligue, c'est 3 victoires, c'est 2 nuls contre Arsenal et contre Manchester City, s'il vous plaît. Alors,
Oui.
il y a une défaite qui fait un petit peu tache, mais comme on le disait et comme l'a très bien résumé finalement Pep Guardiola après le match, peut-être que les résultats du début de saison n'étaient pas bons, mais il joue vraiment bien maintenant. Est-ce que la greffe est en train de prendre, tout simplement?
Oui, je crois qu'elle est en train de prendre. Il est en train de bâtir cette équipe, d'ailleurs, peut-être autour de joueurs qu'on n'attendait pas nécessairement.
Ouais.
À savoir que il y a des joueurs qui sont un peu plus en deçà de ce qu'on attendait, en tout cas au niveau des titularisations. On revoit Raheem Sterling, par exemple, dont on se demandait est-ce qu'il a encore sa place? Ça avait pas l'air de marcher trop bien. Il faisait un peu la gueule, tu me passeras l'expression. Et puis finalement, non, les choses se passent bien. Et tu regardes le 11 de départ. Je le regarde parce que tu m'excuseras. Je voudrais pas dire de bêtises, mais malgré tout, ce qui est quand même assez frappant, d'abord, c'est la jeunesse de cet effectif. Et quand tu vois, mis à part Thiago Silva, l'éternel Thiago Silva, qui encore une fois a
Ouais,
été, bon,
magnifique
ce
hier.
but, oh, ce but,
Ouais.
c'est une merveille d'appel, une merveille de course et le ballon, la tête qu'il fait derrière. Mais quand tu vois, les gens, par exemple, avaient des doutes sur Marco Cucurella.
Ouais.
Moi, je me souviens très bien, début de saison, lorsque Pochettino l'utilisait, j'en disais que Cucurella, il n'a pas le niveau. Tu vois le match qu'il fait hier, mais tu te dis, attention, oui, on retrouve le Cucurella de Brighton, celui qui avait tellement impressionné. Et tu vois une équipe qui aussi, je pense, s'est trouvé un patron. Et ce patron, on l'attendait pas du tout. Et ce patron, c'est Cole Palmer. Je
Okay.
pense que il crève l'écran. Il crève l'écran. Je crois qu'on peut dire peut-être un peu plus de ce
Ouais,
jeune
tout
joueur
à
qui n'a
fait.
que 21 ans,
Ouais.
encore un jeune milieu de terrain offensif anglais qui sont en train de nous préparer justement un milieu de terrain pour l'Euro 2024 et puis pour la Coupe du Monde de 2026. C'est de la dinguerie, quoi.
Ouais.
C'est de la dinguerie, hein, parce que t'as Jude Bellingham et Declan Rice pour faire le boulot, puis devant, alors là t'as le choix entre quoi, 4, 5, 6 joueurs,
Ouais.
et ce Cole Palmer, ce gaucher qui était depuis l'âge de 8 ans à Manchester City, il était tout près de percer dans le 11 de Pep Guardiola. Je dis
Ouais.
bien tout près, parce qu'en fait, il était une espèce de, il n'était pas une doublure, on peut dire une triplure, on va le dire. Il était une triplure de Riyad Mahrez, on peut dire,
Tout
hein,
à
le
fait.
gaucher qui peut jouer dans ce rôle offensif. Et puis comme Riyad Mahrez est parti, il fait une pré-saison fantastique, Cole Palmer. Il marque le but de la victoire dans la Super Coupe d'Europe, et on se dit bon, c'est bon pour lui. Mais c'est un garçon qui ne doute de rien et qui voulait être titulaire dans le club où il jouerait la saison 23-24 à l'âge de 21 ans, je précise. Et il a dit clairement à Pep Guardiola à Manchester City, je veux m'en aller. Et ils ont choisi Chelsea. Pourquoi? À cause de Mauricio Pochettino.
OK.
Parce que Mauricio Pochettino, c'est un entraîneur qui ne va pas hésiter à mettre des jeunes dans le coup. Et là, depuis 4-5 matchs, Palmer, bon, il explose. C'est pas seulement le penalty, le culot. Enfin, quand on voit un petit peu la façon dont il le prend dans le temps additionnel pour prendre un point, et face à son ancien club, la décontraction, la relaxation, et puis techniquement, c'est absolument sensationnel. Et en fait, maintenant, donc, il est, à mon avis, pour moi, il est maintenant le joueur autour de qui l'équipe va se construire. Ce qui est hallucinant. T'aurais
Ouais.
pensé, ce serait plutôt Enzo Fernandez, ça serait plutôt, je sais pas, moi, Moises Caicedo, ça serait des joueurs comme ça. Non. Ou Mudryk, non, ça va être Cole Palmer. Et du coup, oui, la mayonnaise a pris, ces jeunes joueurs s'expriment avec beaucoup plus de liberté. Nicolas Jackson, ça fait plaisir à voir parce que lui, il
Exactement,
était au
j'allais y
début de
venir.
saison,
Ouais,
hein,
c'était très très
il
compliqué, il est
était...
moqué pour sa
Et on sentait le
maladresse.
manque... Ouais, absolument. Mais cette maladresse, ce qu'on appelle la maladresse des buteurs, c'est pas de la maladresse, c'est la nervosité, c'est la
Ah
crispation dans le dernier geste. Et dès que ça se relâche, ouf! Ce grand soupir de soulagement et le corps qui retrouve ses automatismes et le but qui marque, c'est un but, je crois. Non seulement il lui a fait beaucoup de bien, tu auras vu l'explosion de joie après, qui était
Ouais.
une vraie explosion de joie, qui était vraiment très belle à voir. Mais c'est aussi le fait que c'est sa vivacité pour réagir, le fait qu'il était là en alerte. Il savait que si jamais par hasard Ederson ne paraît pas ce tir lointain, mais de belle qualité, Conor Gallagher, si je ne m'abuse, il serait là pour être plus rapide que Rubén Dias. Et il l'a montré. Et Pochettino, il était furieux après le match, parce qu'il se demandait encore pourquoi il y avait un penalty accordé pour une faute de Cucurella sur Erling Haaland, qui, il est vrai, pour quelqu'un qui fait 1m93 et pèse 150 kilos, est tombé bien facilement. Enfin, j'exagère, bien évidemment. Mais il était... Il avait comme on dit en Angleterre, c'est le sourire du chat qui a trouvé le pot de crème. Et il voit son équipe qui est en train de progresser, il voit
Ouais.
son équipe qui est en train de produire des phases de jeu. Et alors, dans le harcèlement, par moments, c'était étouffant, quoi, la pression
Ouais.
qu'il faisait subir sur Manchester City. Alors, c'est risqué, hein, parce que si jamais City, qui est une équipe qui est quand même techniquement et peut-être la meilleure au monde, collectivement, si tu la presses comme ça, si jamais ils arrivent à passer le
Ouais.
premier rideau du pressing,
Derrière, c'est avec deux
waouh,
joueurs, ouais, c'est ça peut aller très très vite.
avec ça peut aller très très vite avec Bernardo Silva qui
Ouais.
a pas son pareil pour trouver des poches d'espace. Mais ils ont su le faire et surtout ils n'ont jamais baissé les bras, mené au score, ils sont revenus, ils y ont cru jusqu'à la fin. Et attention, attention à Chelsea, ils sont distancés
Ouais.
un petit peu,
Sont
ils ont
dixième
perdu
avec 16
trop de
points,
points.
pour vous le dire, dixième avec 16 points, donc à 9 points d'Aston Villa qui est actuellement cinquième.
Voilà. Voilà. Donc c'est un peu too much,
Mais du coup,
mais
c'est quoi le
parce que
projet
devant.
pour la saison? C'est de continuer à grandir avec Pochettino. On a déjà mis un petit peu
Ouais.
à la poubelle cette saison en se disant, voilà, c'est la première saison de la nouvelle ère. On va
Voilà,
grandir, on voit ce
il y
qui
a
se
pas
passe.
d'Europe.
Ouais, ok, d'accord.
Il y a pas d'Europe. L'idée, c'est oui, c'est de mettre en place le. Oui, c'est la saison de transition, sans aucune pression d'une certaine manière.
Ouais.
Parce que je dirais presque que le début de saison, mi-figue, mi-raisin de Chelsea, peut-être tourner à leur avantage.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on s'est posé des questions sur le bien-fondé du recrutement, et on a le droit de s'en poser toujours, parce
Ouais.
qu'il y a eu des décisions qui ont été quand même aberrantes. On s'est posé des questions sur Chelsea, puis petit à petit, ils sont en train de sortir de cette zone floue. Pour proposer l'un des jeux les plus alléchants, les plus attirants de la Première Ligue, et un jeu qui rappelle celui du Tottenham de Pochettino quand le Tottenham de Pochettino est allé en finale de la Ligue des Champions. Donc de ce côté-là, oui, ils ont toutes les raisons d'être satisfaits et ils peuvent prendre cette saison tranquille. Alors il y aura les coupes, hein, il y aura la
Ouais.
FA Cup, s'attendre à ce qu'ils la jouent à fond. Je pense pas qu'ils diraient non à ça. Et l'année prochaine, bien évidemment, bon, ça fera mal, ça fera très très mal, visiblement. Donc tout va bien pour Chelsea.
Eh ben,
C'est pas
impeccable.
ce qu'on disait au mois de septembre.
Exactement, exactement. Mais c'est voilà, il faut reconnaître les mérites d'un club qui travaille et qui avance enfin dans le bon sens. Bah, merci beaucoup, mon cher Philippe, pour ce point anglais. On va aller voir un entraîneur. On parlait de Pochettino pour qui ça va bien. On va aller parler d'un entraîneur pour qui c'est beaucoup plus compliqué actuellement. C'est Rudy Garcia au Napoli. On quitte donc la pluie anglaise pour retrouver notre soleil italien, Guillaume Maillard-Pacini, qui nous a avoué en rantaine à l'instant avoir acheté 1 kilo de pâtes pour 1 € en Italie lors de sa dernière virée. Comment ça va, Guillaume?
Ça va très bien,
Il n'y a pas
merci
d'off
Cyril.
avec nous, Cyril. Guillaume, pardon.
Ben, oui, non, mais c'est vrai, je voyais ça. Moi, je me confie hors antenne, je pensais que ça allait rester entre nous. Mais pas du tout.
Non.
Donc oui, j'ai fait une petite affaire, c'est vrai que j'étais content de cette petite escapade italienne. C'est vrai que j'ai ramené 1 kilo de pâtes pour 1 euro. Voilà, c'est une affaire que je tenais à te dire
Personnellement, Cyril, mais je suis content que les auditeurs aussi le savent maintenant. Voilà.
Alors, mon cher Guillaume, le bilan italien, on va pas tourner autour du pot, on va surtout parler de Rudy Garcia dans ce Tour d'Europe. Avant ça, peut-être une petite image que tu as envie de nous soumettre de ce
Oui.
week-end de Serie A.
Un chiffre, Cyril, c'est 56,08 mètres. C'est la distance du but de Federico Di Marco hier, lors de Inter Frosinone, un but incroyable,
Ok.
vraiment une frappe du milieu de terrain hallucinante, qui a permis à l'Inter d'ouvrir le score. Mais voilà, ça restera l'une des images du week-end avec celle dont on va parler d'ici peu. Mais ce sera peut-être, Cyril, l'un des buts de l'année. Hein.
Ouais.
Rendez-vous l'année prochaine parce que vraiment, ce but-là, il a été exceptionnel de la part de Federico Di Marco.
Et ça permet à l'Inter d'être leader, si je ne m'abuse.
Bien sûr, exactement, leader. Devant la Juve, Cyril, on en
Ouais.
parlera d'ici 15 jours, parce qu'à la reprise de la trêve internationale, il y aura un Juve-Inter, 2 points d'écart qui s'annonce exceptionnel.
Ok. Ah, il nous vend bien son produit. En plus, il est
Ah,
bon.
toujours, évidemment, toujours.
Alors, mon cher Guillaume, l'aventure semble toucher à sa fin pour Rudy Garcia au Napoli. Alors, ce n'est pas encore officiel, mais c'est tellement officieux que c'en est presque officiel, on a envie de dire. Rudy Garcia va être débarqué ce lundi de son poste d'entraîneur du Napoli. Une défaite dimanche qui fait mal à domicile, sans Kvaratskhelia qui était sur le banc.
Ouais.
Son bilan à Naples, à Rudy Garcia, il n'est pas catastrophique, même s'il a récupéré un champion d'Italie en titre, le Napoli est quatrième de Serie A, si je ne dis pas de bêtises. Il est encore deuxième de sa poule en Ligue des Champions et en position de se qualifier. Alors, il tournait à 1,75 points par match, qui est quand même pas suffisant. Mais comment on explique que ce soit terminé aussi rapidement, j'ai envie de dire?
Écoute, l'aventure a duré 16 matchs, Cyril.
Ouais.
8 victoires, 4 nuls, 4 défaites, compétitions confondues. Honnêtement, on a souvent parlé avec toi dans Tour d'Europe, c'était une aventure vraiment qui était. J'ai pas envie de dire qu'il était baisé d'avance, mais si tu veux, Rudy Garcia a quand même eu ce courage-là.
Voilà, c'était un peu un traquenard quand même d'aller prendre le
Exactement,
Napoli.
bien sûr.
Alors,
Et bien sûr.
évidemment, on prend une belle équipe qui sort d'un magnifique titre de champion, mais ça sentait un petit peu le mauvais plan.
Mais bien sûr, mais il remplace Paletti qui est devenu là-bas forcément un dieu vivant
Ouais.
après avoir gagné le titre, Cyril, après une saison exceptionnelle. C'était incroyable. L'année dernière, le Napoli marchait sur l'eau en Serie A, tout lui a réussi. Et passer après ça, vraiment pour n'importe quel entraîneur, ça aurait été compliqué. Et d'ailleurs, certains ont refusé
Ouais.
parce qu'ils ne se sentaient pas de remplacer Lucio Spalletti, parce qu'il y aurait forcément fait une période de transition. L'entraîneur qui arrivait après Spalletti aurait forcément fait moins bien. Même en gagnant le titre, tu aurais pu confirmer le titre, mais la saison avait tellement été splendide au niveau
Divine,
du
ouais.
jeu, ouais, divine exactement, au niveau du jeu, au niveau des résultats, que c'était forcément compliqué. Rudy Garcia le savait, il a accepté ce poste-là. Mais on a très vite senti, on en a parlé il y a un mois dans le Tour d'Europe, on avait fait un point à la trêve d'octobre où vraiment De Laurentiis avait sondé tous les entraîneurs possibles, notamment Antonio Conte qui avait dit non pour remplacer Garcia. Finalement, ce n'était pas fait. Mais on sentait bien que dès qu'il y avait un mauvais résultat, dès que la prestation n'était pas bonne, il y avait comme une pression déjà médiatique
Ouais.
parce qu'à Naples, voilà, Rudy Garcia, très vite, ça a été compliqué même avec les médias. Avec les supporters, il y a vraiment une colère et des sifflets
Ouais.
envers évidemment l'équipe, mais envers Rudy Garcia parce que tu le sais, quand les résultats vont pas, c'est forcément
Oui, c'est vers
l'entraîneur
lui
qui
qu'on se
prend, c'est le
tourne.
premier
Ouais.
fusible. Et De Laurentiis qui hier, Cyril, voilà, j'ai feuilleté un peu la presse, Cyril, parce que je travaille quand même en amont de cette émission. J'ai feuilleté la presse et c'est vrai que de ce qui a filtré, c'est que De Laurentiis hier à la mi-temps,
Il est
donc du
descendu dans
match
le vestiaire, ouais.
face à Naples, ouais, et son vestiaire, il a court-circuité Garcia. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le vestiaire, il a fait son discours à lui avant l'entraîneur à la mi-temps, ce qui a provoqué visiblement la surprise des joueurs et l'étonnement. Et après le match, De Laurentiis n'a même pas voulu croiser Garcia. Voilà, ça a pas été. Il est resté 2 heures après le match, voilà, à voir ses dirigeants, à voir l'équipe, mais il n'a pas voulu voir son coach.
Légèrement
Il a dit
versatile,
commis.
ce cher De Laurentiis qui avait annoncé l'arrivée de Rudy Garcia sur Twitter en disant que c'était le candidat parfait. Bon, il lui a pas facilité la tâche.
Non, non, mais après, tu le connais, De Laurentiis.
Ouais,
Voilà,
bien sûr.
c'est un président qui est assez sulfureux et qui est assez sanguin, on
Atypique.
va dire, atypique. Et depuis un mois, hein, depuis les premières rumeurs de départ de Rudy Garcia, il avait décidé tous les jours, quasiment, d'aller au centre d'entraînement du Napoli, du Casavoltorno, où vraiment il supervisait les entraînements, les discours, les schémas. C'est-à-dire que voilà, c'était vraiment, je l'avais dit, hein, Rudy Garcia était un entraîneur sous tutelle. C'était le cas. Et hier, cette défaite face à Empoli à domicile, ça a vraiment été la goutte d'eau
Ouais.
qui a fait déborder le vase. Mais Mais voilà, c'est quelque chose vraiment qui se sentait. Il n'y a aucune surprise sur le fait que Rudy Garcia quitte Napoli de cette manière-là. Alors après, voilà, on n'imaginait pas que ça allait être aussi court.
Ouais.
Mais voilà, le bilan n'est pas catastrophique, mais vraiment dans le contenu, dans le résultat. Comme je t'ai dit, Rudy Garcia a sa part de responsabilité qui est forcément grande. Mais lui, il le savait, c'était quasiment baisé d'avance parce que c'était pas possible vraiment de remplacer Spalletti au Napoli. Et n'importe quel entraîneur vraiment aurait, je pense, que ce serait allé droit dans le mur.
J'ai une question qui me turlupine de mon point de vue franco-français.
Dis-moi.
Rudy Garcia en France, ces dernières années, c'est un petit peu mis tout le monde à dos parce qu'il a entraîné l'OM et l'OL et qu'il n'est pas forcément parti en très bons termes. On l'a vu tenter l'expérience en Arabie Saoudite, mais on savait que l'Italie, c'était un petit peu une poche de résistance, que son image là-bas était encore très bonne, notamment du fait de son passage à la Roma. Est-ce que cet échec, on peut le dire, cet échec napolitain, abîme son image en Italie?
Forcément. Forcément, ça va rester une tâche quand même dans son CV, Mais pourquoi, en fait, d'un point de vue franco-français, l'étonnement était total quand le Napoli, champion d'Italie, va choisir Rudy Garcia.
Clairement, ouais.
Ouais, voilà, ça a été une surprise. Mais en Italie, vraiment, il bénéficiait encore d'une bonne réputation.
D'accord.
Son passage à la Roma, tu l'as dit, était plutôt bon. Il avait réussi 10 victoires consécutives au tout début de son aventure. Donc vraiment, il bénéficiait d'une bonne réputation. Et en plus, Cyril, alors voilà, ironie de l'histoire ou non, mais c'est vrai que son entretien avec De Laurentiis avait été plutôt bon. Et on sait que Rudy Garcia, oralement et dans ses entretiens, est toujours plutôt pas mal.
Mais
et
c'est une qualité, il faut lui reconnaître.
Mais bien sûr, mais comme toi, quand t'es arrivé chez Eurosport, t'as su les convaincre avec ton phrasé. Et ben, Rudy Garcia, c'était pareil. Vraiment, il avait su convaincre De Laurentiis en lui présentant un projet concret, avec une connaissance parfaite de l'équipe. Et c'est vrai que De Laurentiis s'est laissé charmer.
Ouais.
Et voilà, l'aventure se finit comme je te l'ai dit, après 16 matchs.
Est-ce qu'on risque de voir son nom? Parce que quand je dis ça, je me souviens que quand il y avait des postes un peu libres en Italie, il y avait forcément le nom de Rudy Garcia qui était cité voilà, dans les gros clubs italiens. Est-ce que là, cette période-là va être finie? Si demain, le banc de l'Inter venait à être libéré, de la Roma, voilà, d'autres grands clubs italiens, le nom de Rudy Garcia ne sera plus cité, a priori.
Ouais, ça sera forcément compliqué parce que 16 matchs, c'est quand même pas beaucoup.
Ouais.
Ça signe quand même mal avec le Napoli.
Avec ses joueurs aussi.
Ouais, exactement. Ouais, avec Varaschka, tu t'en souviens, il y a eu beaucoup de sorties où hier il a pas joué. Hein. Il est rentré sur le terrain, c'était le meilleur. Mais assez sur le terrain, enfin sur le banc pendant plus de 2 ans, on n'a pas compris. Osimhen, ça s'est mal passé aussi. Donc forcément, c'est vraiment une tâche qui reste sur ton CV. Et c'est vrai que la bonne réputation dont tu es bénéficié avant d'être venu à Naples, je suis pas certain qu'elle perdure après justement ce passage à Napoli. Donc, si un banc d'une grande équipe se libère, je ne suis pas certain que ce soit vraiment faire Rudy Garcia qu'on ira chercher, je pense.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, mon cher Guillaume, pour ce.
Bah, Cyril, non, pour le remplacer.
Pour le remplacer, quand même. Parce que c'est aussi un ancien de Ligue 1 qui est cité.
Bien sûr.
Merci, Guillaume.
Bien sûr, pour le remplacer.
Heureusement que tu es
vigilant. Quand même, Cyril. Nous avons notre travail, quand même, complètement. On va dire rapidement. Parce que pour l'instant, c'est que des rumeurs, mais c'est vrai que Rudy Garcia sera débarqué dans les prochaines heures, donc ce lundi très probablement. Et pour la reprise mercredi des entraînements du Napoli, c'est normalement Igor Tudor qui devrait être là, l'ancien entraîneur de l'OM. Les négociations sont en cours. On sait que De Laurentiis va rencontrer ses agents du côté de Rome. Là où ça bloque pour l'instant, c'est que Igor Tudor voudrait un contrat à long terme, c'est-à-dire qu'il ne voudrait pas être intérimaire. Il voudra un contrat avant de 2 ou 3 ans. Et De Laurentiis, dans son idée, aimerait lui proposer un contrat jusque la fin de saison avec prolongation jusqu'en 2025, six qualifications en Ligue des Champions.
Okay.
Donc voilà, ça serait conditionné.
Lui, à l'inverse, son passage à Marseille a redoré encore un peu plus son image en Italie.
Exactement. Bien sûr, et surtout son... Et son passage à l'AS Vérone avait été très bon,
oui,
Cyril.
Tout à fait. Hein.
Honnêtement,
mais c'est
à
pas la
U,
même
voilà,
pression. Enfin voilà, le fait de passer
exactement
par l'OM et de réussir la saison qu'ils ont réussi la saison passée, ça lui bénéficie aujourd'hui.
Bien sûr, et tu sais, on compare souvent, même en Italie, hein, les environnements marseillais et napolitains, hein, c'est deux environnements qui se ressemblent. Donc, on a vu que Igor Tudor pouvait supporter un environnement compliqué et très lourd en pression comme à Marseille. Et c'est vrai, son passage à l'OM a fait plutôt du bien à sa réputation. Donc, Conte, on sait que De Laurentiis a recontacté Conte pour contacter le terrain en lui disant « t'es sûr que t'as pas changé d'avis ?» Il a pas changé d'avis. Donc, la priorité, c'est Igor Tudor. Et honnêtement, alors peut-être que tu vas ressortir l'extrait si dit non, mais honnêtement, de ce qu'il vit en Italie, ça devrait être plutôt bon pour voir Igor Tudor sur le banc du Napoli. Donc, à suivre dans les prochaines heures. Mais normalement, voilà, mercredi à la reprise des entraînements du Napoli, c'est Igor Tudor, l'ancien entraîneur de l'OM, qui devrait être à la tête du club.
À suivre dans les prochaines heures, mais aussi dans les prochaines émissions de Tour d'Europe, parce que mon petit doigt me dit qu'on finira par parler de Tudor à un moment plus en détail. Merci beaucoup, donc, mon cher Guillaume, pour ce point italien. Et nous, on quitte l'Italie, on rejoint l'Allemagne. Allez, on continue notre tour d'Europe. On arrive en Allemagne où il s'est passé encore beaucoup de choses ce week-end. On retrouve David Lortolari. Salut David. Je crois qu'il y a un homme dont tu as envie de nous parler d'entrée. Un buteur improbable qui est encore et toujours buteur, justement. C'est Serhou Guirassy qui a encore marqué ce week-end pour Stuttgart.
Salut Cyril, salut à tous. Et oui, il était blessé à la cuisse. Stuttgart était un petit peu plus tremblotant que son formidable début de saison depuis cette blessure. Serhou Guirassy était remplaçant pour son retour dans ce match pour Stuttgart. Il est entré en cours de seconde période et il a marqué un but décisif pour Stuttgart, son 15e de la saison. Alors évidemment, c'est un peu éclipsé par les records de Harry Kane avec ouais. le FC Bayern. Mais Serhou Guirassy, 15 buts, ça veut dire qu'il est au-delà d'un but par match. Et c'est pour Stuttgart une mascotte incroyable. Ça explique très largement, même si ce n'est pas la seule explication ouais. bien sûr, ça explique très largement que Stuttgart soit dans les 4 premiers aujourd'hui.
Alors, on vient te voir, David, parce qu'il y a un nom bien connu des supporters parisiens qui fait beaucoup parler en Allemagne cette saison, comme il avait fait beaucoup parler au PSV Eindhoven la saison passée. C'est Xavi Simons qui est prêté, on le rappelle, par le Paris Saint-Germain à Leipzig et qui a réussi un début de saison époustouflant, tout simplement, dans son adaptation au club. 18 matchs, 6 buts, 8 passes décisives. La première question, elle est simple, hein. On dit quoi autour de Xavi Simons en Allemagne?
Ah ben c'est le Leistungsträger, c'est le porteur de performance okay. à Leipzig en ce moment, très clairement. Donc c'est un joueur de 20 ans qui a des frêles épaules, mais qui a surtout une insouciance dans le bon sens du terme, qui fait que comme hier, sur ce formidable but à l'entrée de la surface...
C'est presque frappe... sa spéciale maintenant, hein. C'est
oui,
enroulé...
C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit au moment où le ballon vient se glisser au ras du poteau, le geste juste, le geste ouais. parfait... avec juste la puissance qui est nécessaire, le porteur de performance. Alors, il n'est pas tout seul dans cette équipe de Leipzig. Il y a un ouais. gros savoir-faire sur le recrutement, sur les talents, sur la capacité à former une équipe très vite. Chaque fois que des joueurs s'en vont, et Dieu sait s'il y a des joueurs qui s'en ouais. vont chaque saison de Leipzig, mais de la Galaxie RB. Mais oui, c'est vraiment le joueur qui aujourd'hui fait la différence. Il a ouvert le score hier dans un match difficile contre un adversaire difficile. Fribourg, c'est jamais facile de se dépêtrer de ce collectif. Ouais. Et c'est lui qui fait la différence. Il me rappelle Christopher Nkunku dans d'autres qualités, okay. mais simplement pour vous dire que Cyril, c'est un joueur qui arrive, qui se pose pas trop de questions et qui délivre ses performances semaine après semaine. Leipzig a connu un petit creux avec une élimination en coupe, je crois que c'était contre Wolfsburg, une défaite aussi en championnat qui a mis un petit coup d'arrêt. Et hop, on redémarre juste derrière sans se poser tellement de questions, comme je disais. Il y a une très bonne intégration pour lui. Il y a cet instinct qui fait qu'il va débloquer des situations parfois compliquées. Et puis, il y a aussi cette relation avec les autres. Il faut dire un mot de Loïs Openda ouais, qui est devant lui et qui vient du championnat de France. Et puis, voilà, c'est cette capacité. C'est pour ça que j'évoque Nkunku, cette capacité à se fondre dans un collectif très vite en quelques semaines et à performer de telle sorte que RB Leipzig continue d'avoir pour objectif une qualification en Ligue des Champions en ouais. fin de saison. Comme toujours ces derniers temps, n'oublions pas que cette équipe fait tout très bien, très vite. Elle a mis une dizaine d'années à monter de la 7e division ouais, aux places européennes.
Tu parlais de la spécificité du recrutement à Leipzig. Moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir si on s'attendait en Allemagne à avoir un joueur déjà aussi prêt, finalement, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, et même aussi décisif. On a vu son premier but en Ligue des Champions la semaine passée, ce nouveau but-là. Peut-être qu'on se disait ça va prendre un peu plus de temps pour lui, qui découvre un nouveau championnat. Que ça soit aussi rapide, est-ce que c'est un motif de surprise ?
Alors, c'est les sorciers, c'est des magiciens à Leipzig. Donc, ils ont. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils nous ont concocté des joueurs qui réussissent. Il y a eu quelques échecs. On pense notamment au grand Sorloth en attaque qui est reparti sans avoir pu mettre sa patte sur cette équipe. Il y a eu quelques échecs, mais en fait, le point commun à Leipzig, c'est que souvent, l'intégration fonctionne. Et peut-être qu'il y a une explication aussi, Cyril, c'est que. Il n'est pas seul, c'est-à-dire que si il n'est pas là, s'il est absent, si on fait du turnover, il y a d'autres joueurs crédibles dans une équipe comme ça, n'est-ce pas? On a évoqué Openda, on peut évoquer Benjamin Šeško, le grand attaquant aussi venu de RB Salzbourg. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu moins de pression aussi sur les épaules de ces jeunes qui, j'allais dire, qui débutent certainement pas, mais je veux dire qui ont à faire leurs preuves. Il y a peut-être un peu moins de pression parce qu'on ne va pas leur dire « il faut que tu réussisses ». Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Il y a Emil Forsberg aussi, qu'on connaît, le Suédois, qui peut tout à fait dépanner avec un peu plus d'expérience. Et peut-être que ça met aussi en confiance cette jeunesse-là. Il a une vingtaine d'années maintenant, Xavi Simons. On s'attendait à ce qu'il performe, bien sûr, à Leipzig. Pourquoi? Parce que l'environnement est bénéfique. Ouais. On l'a vu par le passé et on le voit encore aujourd'hui. En fait, ce n'est pas une surprise parce que d'autres l'ont réussi avant lui.
Dernière question sur le cas Xavi Simons. En France, ça fait beaucoup parler, tout simplement, de voir que le Paris Saint-Germain a prêté ce joueur-là, sur qui il semble compter à moyen-long terme, mais qu'il n'a pas voulu intégrer dans son effectif cette saison. Or, il a l'air d'être plutôt prêt pour les grandes échéances européennes. Est-ce que c'est aussi un débat en Allemagne de se demander à quoi joue Paris dans ce dossier-là? Et on a lu des rumeurs sur la possibilité qu'il reste encore une saison de plus la saison prochaine en prêt. Où est-ce qu'on en est de ce dossier-là?
Alors, il n'y a pas tellement de regard sur la Ligue 1, hormis un gros succès parisien, parce qu'en Allemagne, on respecte la surface financière du Paris Saint-Germain, ou un gros échec. Là, évidemment, ça va parler. Ouais. C'est comme pour Jürgen Klopp avec Liverpool, on a le même regard par rapport à ces grosses écuries, soit parce qu'il y a un Allemand sur place, soit parce que c'est quelques clubs sur lesquels il faut compter. Xavi Simons, comment vous dire par rapport à Paris Saint-Germain, là il va y avoir plusieurs échéances importantes pour RB Leipzig. Il va y avoir la revanche contre Wolfsburg après la coupe, il va y avoir ensuite un match contre Heidenheim qu'il faudra gagner, et il va y avoir enfin, et là on pourra parler avec plus de sérénité, Cyril, il va y avoir enfin le choc contre le Borussia Dortmund. Si dans ces matchs-là, match contre un promu, match contre un candidat au titre, Dortmund, et match dans un contexte particulier avec le défaite en coupe, Wolfsburg, si Xavi Simons, dans ces trois contextes très différents-là, continue de porter les performances qu'on disait il y a 2 minutes, là, forcément, son statut va changer. On va se dire c'est un homme décisif. Il l'est déjà, mais aujourd'hui, on n'en fait pas le héros pour l'instant. Ça reste encore un peu tôt. Et en fonction de ça, on pourra dire, voilà, ça va être notre leader. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe encore, Cyril, c'est cette insouciance, cette capacité à jouer le geste juste. Pour l'instant, on en est là. S'il peut assumer davantage que ça et un leadership, oui, Leipzig tentera de le conserver. Et oui, il sera un joueur important que d'autres clubs, d'ailleurs, que le Paris Saint-Germain vont vouloir récupérer très vite.
Bon, tu nous connais, David, on suivra le dossier avec attention dans les semaines qui viennent, surtout quand ça touche au talent européen. Merci beaucoup, David, pour ce point allemand. Et on va terminer cette émission en se rendant en Espagne. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par un détour en Espagne. On retrouve Anna Caro. Anna, avant même de te saluer, il faut qu'on parle absolument d'un joueur qui continue d'éclabousser le football de son talent, c'est Antoine Griezmann.
Salut tout le monde. Oui, bien sûr, Antoine Griezmann qui a encore brillé hier contre Villarreal. C'est même plus une surprise finalement, parce que depuis ce début de saison, on se rappelle qu'il y a eu quelques matchs au début où il n'a pas forcément marqué. Il n'a pas forcément fait de passe décisive. Il était à, je crois, un but, une passe décisive sur les 4 ou 5 premiers matchs. Et il y avait déjà cette petite inquiétude, on retrouvait les questionnements habituels, où est passé le grand Griezmann, etc. Bon, je crois qu'on l'a retrouvé, il n'y a plus beaucoup de doutes. Là, encore hier contre Villarreal, et finalement, au-delà en plus de ce côté buteur et de ces passes, bah, en fait, on retrouve aussi le Griezmann créateur. Et il expliquait d'ailleurs récemment dans une interview où il disait que il aimait bien marquer, mais que si le jeu lui demandait de se déplacer, d'aller plus bas pour créer, il savait qu'il le faisait pour l'équipe et que c'était tout autant un plaisir pour lui. Et c'est là qu'en fait on voit que c'est un joueur qui profite vraiment de jouer au football, qui est
Ouais.
heureux, très très loin de ce qu'on a pu voir quand il était au Barça. Et c'est très très positif pour l'Atleti, c'est sûr. Il est à 4 buts du record de Aragonès,
Ouais.
donc on peut vraiment croire qu'il va avoir ce record de meilleur buteur historique de l'Atleti d'ici la fin de saison. Et puis il y a cette belle relation toujours avec Diego Simeone qui n'arrête pas de lui faire des compliments
Ouais.
après chaque match. Et c'est une belle histoire finalement, et c'est sans doute mieux pour lui aussi du coup d'être rentré à l'Atleti quand on voit tout ce qu'il fait aujourd'hui.
Ouais, on a parlé de son nouveau rôle un petit peu hybride en équipe de France et aussi à l'Atleti. Tu as parlé de son bonheur d'être sur le terrain et c'est vrai que ça transpire de toutes ses interventions médiatiques. Est-ce qu'on l'a déjà vu aussi fort et aussi total, j'ai envie de dire?
Bah, la saison passée, il était déjà à ce niveau-là. On a peut-être un peu tendance à l'oublier aussi parce qu'il joue dans un club qui est moins médiatique, en
Ouais.
tout cas en France. Mais il y a beaucoup de supporters de l'Atlético qui étaient très agacés par la place de Antoine Griezmann au Ballon d'Or.
Ouais.
Parce que, effectivement, si on prend dans les joueurs qui ont le plus d'influence sur leur équipe, donc pas seulement but et passe dé, mais aussi création
Tout le reste,
d'occasion,
ouais.
etc. Et il est, je pense, très très haut dans ce classement-là. Et c'est vrai que il y a un sentiment un peu de déclassement, en tout cas du côté des supporters du Real, de l'Atlético vis-à-vis du reste du monde. Mais il reste très très important. Et aujourd'hui, on a un très très grand Griezmann, du niveau du Griezmann qu'on avait la saison passée. Mais si il poursuit comme ça vraiment sur toute la saison,
Ça va être
Je pense
encore
qu'on
au-dessus.
pourra dire que c'est la meilleure saison de sa carrière, oui, c'est sûr.
On a entendu Didier Deschamps dimanche dans Téléfoot bah, vanter les mérites de son chouchou Antoine Griezmann et lui aussi avait pris un peu le parti de dire que bah il n'était pas considéré à sa juste valeur. Tu as parlé de sa 21e place au Ballon d'Or qui a un petit peu exaspéré les supporters de l'Atleti. J'aimerais bien savoir dans le monde médiatique espagnol, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui transpire ou est-ce que on est resté sur l'idée que bah, voilà, la fameuse table à laquelle il ne pourra jamais s'asseoir, celle de Messi et de Cristiano, etc. Voilà, c'est quoi la perception médiatique autour d'Antoine Griezmann? Est-ce qu'on se dit qu'il est sous-coté au niveau mondial ou est-ce qu'on se dit qu'il est finalement à sa place, tout simplement?
C'est assez compliqué parce qu'en Espagne, il y a pas forcément un média, par exemple, qui va défendre
Ouais.
l'Atleti. On sait qu'il y a un média, enfin des médias qui vont défendre le Barça, d'autres qui vont défendre le Real. Pour autant, quand on prend tous les observateurs du foot espagnol, globalement, tous les journalistes, les éditorialistes, ils sont tous unanimes sur le fait que Griezmann actuellement est le meilleur joueur de Liga, avec Bellingham bien sûr. Mais il y avait aussi déjà cette considération-là l'année dernière. On se rappelle que l'année dernière, comment Griezmann, il est sur absolument toutes les lèvres pour être le meilleur joueur de
Ouais.
Liga. Finalement, ça n'a pas été lui, c'était Vinicius. Mais ça reste, enfin, il est vraiment considéré en Espagne. Et il y a ce sentiment aussi, parce qu'évidemment, c'est la presse espagnole qui a été la première à dire, regardez le classement d'Antoine Griezmann au Ballon d'Or, c'est pas juste.
OK.
Et il y a aussi en Espagne beaucoup de considération pour ceux qui font le jeu et pas seulement ceux qui sont dans les statistiques. Et dans ce cadre-là, évidemment, il y a une grande défense d'Antoine Griezmann.
Alors, on a parlé de perception médiatique, Anna, ça nous amène au sujet qui nous réunit ce lundi. On va parler un petit peu du Barça et notamment de Xavi avec cette question. Xavi est-il moins lucide finalement? On a vu la une de Sports au lendemain de la victoire difficile contre Alavés, grâce à un doublé d'un certain Robert Lewandowski que certains médias catalans envoyaient déjà loin de Barcelone. En gros, la une, c'est insuffisant. On ne retiendra que les 3 points, grosso modo. Et cette sortie de Xavi qui nous interpelle un petit peu, Anna. Ce sont les critiques de la presse qui affectent les footballeurs et c'est pour ça qu'on ne joue pas très bien. Je leur ai dit à la mi-temps de se calmer, ils ne mangent personne ici. Je n'ai aucun doute sur le fait que les critiques affectent l'équipe. Xavi a-t-il raison de partir en croisade contre la presse?
Alors non, il n'a pas raison parce que ben en fait on l'a vu déjà sur les derniers entraîneurs qui eux sont partis en croisade contre la presse, ça s'est globalement mal passé pour eux. Et ça a été compliqué ensuite aussi de faire passer leurs idées à travers les conférences de presse, etc. Mais là, on sent aussi que Xavi, il y a un petit côté où il en a marre de la presse, il en a marre de l'entourage catalan. Il faut le dire, que ce soit le Real Madrid ou le Barça, ces clubs-là, l'entourage est très très toxique.
Hystérique. Ouais, c'est hystérique en
Il y
Espagne,
a
on peut le dire.
beaucoup de choses qui sont montées en épingle à partir de pas grand-chose. Si on peut prendre par exemple le cas hier de Lewandowski qui aurait refusé de taper dans la main de Lamine Yamal, en fait, il y a quelqu'un qui travaille à la chaîne en question et qui explique qu'en fait les images ont été montées à l'inverse du sens dans lequel ça s'est passé. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un peu utilisées parce que bah ça reste le Barça. Le Barça, ça fait vendre. Donc si on détecte des petites choses, ça fait vendre aussi. Par contre, la sortie de Xavi est évidemment assez malvenue dans un contexte où on va dire que 80% de son effectif est international, qu'ils ont eu l'habitude de jouer dans des grands clubs autrement. Et que c'est pas une découverte de dire que la presse met la pression sur les joueurs. Et de là à dire que ça affecte la façon dont jouent les joueurs, c'est un peu grotesque, on va dire, parce qu'on est à 5 jours après le Shakhtar. Et contre le Shakhtar, là, il y avait eu un vrai problème de football, même plus grave que ce qu'on a vu contre Alavés. Vraiment, le Barça n'a presque rien proposé en 90 minutes. Ils ont eu un tir cadré en 90 minutes. Et là, à ce moment-là, Xavi, il ne parle pas non plus de football et il dit que c'est la faute du mental. On a l'impression que Xavi essaie de trouver des excuses, en tout cas. Mardi, c'était de la faute du mental. Là, c'est dimanche, c'est de la faute de la presse. Je pense qu'il est grand temps que la trêve internationale arrive. Qui puisse se retravailler avec son staff, qui puisse prendre du recul aussi sur tout ça, parce qu'on voit clairement le Barça traverse une très mauvaise passe et c'était pas arrivé à Xavi depuis un petit moment. Et là, il a besoin de trouver des réponses. Et c'est, je pense, pas en tapant sur la presse ou le mental qu'on trouve des réponses, en tout cas au football.
Est-ce qu'on peut acter que c'est la fin de l'état de grâce pour lui? Parce qu'on se souvient, ça a duré longtemps autour de lui, tout simplement parce qu'il a récupéré le Barça dans un sale état, quand même, rappelons-le, qu'il a réussi à être champion depuis. Mais là, on sent qu'il y a à la fois plus d'attentes autour de ce Barça-là, du fait de son statut de champion, plus d'attentes aussi sur le niveau européen du FC Barcelone. Est-ce que là, c'est maintenant que ça se joue vraiment pour Xavi et pour son avenir pas à court terme, évidemment, mais peut-être à moyen long terme au Barça.
Alors en tout cas, c'est sûr que là, il y a un cap qui a été franchi en Espagne. On va dire que ça y est, entre guillemets, désormais, la presse s'autorise à critiquer Xavi, s'autorise à critiquer le jeu. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et pourtant, il y a eu des matchs qui n'étaient pas vraiment concluants avant qu'on arrive à cette période compliquée pour le Barça. C'est vraiment mardi, au moment de la défaite contre le Shakhtar. Vraiment, tous les journalistes espagnols n'avaient que le nom de Xavi à la bouche. C'était que et uniquement de la faute de Xavi. Mais parce que déjà, il y avait eu la victoire contre la Real Sociedad le week-end précédent, où vraiment, Xavi le dit lui-même, ce n'était pas mérité. Ils ont gagné comme ils ont gagné finalement face à Alavés. Mais là, il y avait une défaite contre le Shakhtar, qui est censée être une équipe inférieure à celle que peut être celle du Barça. Et c'est vraiment un cap, parce qu'en plus, donc non seulement, oui, il avait un peu cet état de grâce parce qu'il est arrivé pour sauver le club, et parce que c'est Xavi surtout.
Bien sûr.
Il bénéficie d'un statut qui est énorme, et c'est en rapport avec son histoire avec le club, parce qu'il a osé venir prendre le club dans une de ces situations très très compliquées. Mais là, il y a beaucoup d'interrogations sur quel est le jeu de Xavi, qu'est-ce qu'il veut faire passer et est-ce qu'il arrive à le faire passer. Parce que si on prend le match de Alavés hier, il y avait énormément de problèmes dans les transitions défensives, notamment dans l'axe, avec Samu qui a fait beaucoup de mal au milieu, enfin devant, mais au milieu. Et c'est un problème qui est récurrent. C'est-à-dire que depuis que Xavi est arrivé, les transitions, les contres, etc., c'est
Majeur.
toujours un peu à l'abordage derrière.
Ok.
L'année dernière, d'ailleurs, dans le podcast, on s'étonnait de si peu de buts que prenait le
Ouais,
Barça
ouais.
malgré l'organisation. Et là, on retrouve les mêmes problèmes. Donc, il y a aussi des choses à travailler de ce côté-là.
Eh ben, merci beaucoup, Anna, pour ce point détaillé sur Antoine Griezmann et sur le FC Barcelone de Xavi. On touche à la fin de ce Tour d'Europe. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Malgré la trêve internationale, on sera là. On vous dit bonne semaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.